à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Anglais des chiffres, comme tous les dimanches, sur LCI en direct de 17h à 18h. Vous le savez, chaque dimanche, nous recevons un grand témoin de l'actualité pour parcourir avec lui les faits qui s'égrènent sous nos yeux pendant les quelques jours qui ont précédé et qu'on va essayer de mieux comprendre. Cette semaine, nous recevons Jean-François Colosimo. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes éditeur, patron des éditions du Cerf, mais vous êtes aussi vous-même un historien, et notamment un historien des religions. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Le dernier en date s'appelle « Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie ?» C'est bien sûr aux éditions du Cerf. En ce moment même se déroule une manifestation pour protester contre une décision de justice, celle qui a de facto innocenté, en tout cas déclaré irresponsable, l'auteur d'un crime antisémite parce qu'il était sous l'empire de la drogue. Ce crime, c'est la torture et la défenestration d'une femme, Sarah Halimi. Ça s'est produit il y a quelques années. On va écouter William Attal, c'est le frère de la victime qui s'exprimait il y a quelques heures, et l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi.
On est dans une erreur, énorme erreur judiciaire. J'ai pas peur de le dire. C'est une nouvelle affaire Dreyfus. Je souhaite qu'elle s'arrête très rapidement. Malheureusement, on a volé pour l'instant la justice à la famille de Sarah Halimi. On va épuiser toutes les voies de recours en France. Et après seulement, on s'adressera à l'étranger, à l'Europe, à la Cour européenne des droits de l'homme et aussi en Israël. Mais je souhaite que la justice soit rendue d'abord en France.
Pour moi, Sarah Halimi, c'est un crime qu'on ne peut pas l'accepter. Pas autant qu'humain, autant que croyant, autant que citoyen. Pour que ce ne serait pas ce crime-là, malheureusement, au nom d'une pseudo, malheureusement, raison de la drogue ou d'autres. C'est un acte à l'intérieur, c'est l'antisémitisme, c'est une réalité, il faut le dire en France, qu'elle existe. Et en même temps, la justice n'est pas à la hauteur de ça. C'est là où nous sommes autant que citoyens humains de dire réclamer justice pour Sarah Halimi et pour les victimes qu'elles vivent en paix.
La justice n'est pas la hauteur, c'est ce qu'on vient d'entendre dans la bouche de l'imam de Drancy, Chalgoumi. Décision, il faut bien le dire, incompréhensible.
Oui, enfin, décision incompréhensible qui signale un écueil très grave de notre droit sur la notion de responsabilité et d'irresponsabilité. D'ailleurs, vous voyez bien qu'en ce moment, on voit que dans d'autres zones, en quelque sorte grises de la conscience humaine, se posent d'autres questions. La fameuse question du consentement, n'est-ce pas ? Donc, les choses deviennent plus difficiles pour le droit à apprécier, et en même temps, on peut qu'adhérer à ce sentiment extrêmement fort qui prend nos compatriotes juifs, que ce soit leur confession ou leur culture ou leur héritage. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sentiment de déni de justice. Mais il n'est pas arrivé avec l'affaire Sarah Halimi. L'affaire Sarah Halimi, elle cristallise un sentiment qui maintenant vieux d'une vingtaine d'années, qui est celui qu'en fait un nouvel antisémitisme est apparu en France, de nature islamiste.
C'est incontestable,
mais ça a été contesté pendant une dizaine d'années, oui. N'est-ce pas ? Parce que, effectivement, c'était les fameux mantras, évitons tout amalgame, ne désignons pas. Mais enfin, c'était une réalité, cet antisémitisme, nourri au djihadisme, à l'islamisme, et évidemment, sans stigmatiser nos compatriotes musulmans par ailleurs, mais c'est une réalité.
Qu'on n'a pas osé nommer les choses en France.
Parce que vous voyez bien qu'on a eu beaucoup de mal à les nommer pendant tout un quinquennat. On avait un terrorisme qui n'avait pas de qualificatif, dont on ne connaissait pas l'identité. Je crois que nous sommes face, effectivement, à une république et à un monde politique affaibli, en quelque sorte, qui comprend mal, d'ailleurs, peut-être ce qui se passe à l'échelle planétaire. Il y a ça aussi, n'est-ce pas ? Tant ce qui se passe ne correspond
peu... Vous voulez dire la situation internationale
Le retour du religieux, partout, c'est ça. Qui n'est pas que dans le Proche-Orient. En Birmanie, ce sont des bonzes qui brûlent des musulmans, n'est-ce pas ? Des bonzes bouddhistes. Le bouddhisme, c'était censé être une religion de paix. Non, c'est comme toute religion, c'est aussi un véhicule social et donc aussi coercitif. Donc je crois qu'on est assez désemparés, mais nos compatriotes juifs, les Français juifs, les Juifs français, comme on voudra, ils sont encore plus désemparés parce qu'ils ont un sentiment d'abandon qui est extrêmement fort et que corrobore d'ailleurs... qu'ont corroboré à un moment les chiffres de l'Alia, vous savez, le retour en Israël,
le départ pour
c'est-à-dire la loi israélienne qui autorise tous les juifs du monde à faire valoir leur citoyenneté israélienne. Mais ces chiffres ont atteint des pics il y a quelques années, qui montraient bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait plus. Certaines de nos compatriotes étaient convaincus que Israël était un endroit plus sûr que la France. Ce qui, dit comme ça sur le papier, peut sembler complètement absurde, parce qu'Israël est dans une zone inflammable, de guerres répétées, l'existence d'Israël est déniée encore par certains de ses voisins, etc. Et non, pourquoi ? Parce que là-bas, ils étaient maîtres de leur destin. C'était ça l'idée.
Bien sûr.
Alors qu'ils s'y se sentaient totalement liés à une république qui, au fond, ne s'occupait plus d'eux. C'est ça le fond de l'affaire. Et évidemment, ça se double encore une fois d'une forme sidérante, abyssale, finalement. Non, la loi ne permet rien. Mais si la loi ne permet rien, tout est possible, alors.
Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, veut la changer. Hein. Il l'a dit ce matin dans un tweet, il projette de modifier la loi pour la fin mai, avec l'accord et même probablement l'incitation du président de la République. C'est une bonne idée.
Oui, c'est une bonne idée.
Justement pour lever l'ambiguïté sur cette fameuse responsabilité, notamment pour les criminels qui ont choisi leur cible, c'était manifestement le cas, et qui sont sous l'empire de la drogue.
Absolument. Donc c'est pour essayer d'établir le fait que, effectivement, lorsqu'il y a des causes exogènes à votre perte de conscience, abolition de la conscience, lorsque c'est vous qui avez cultivé cette abolition de la conscience, vous êtes responsable. Bon. Très bien. Mais deux remarques, si vous me permettez. La première, c'est que, d'abord, il y a eu ce bel appel du grand rabbin Chaim Korsia, qui est connu pour être tout de même très irénique, très républicain, et là, on voit que ça déborde. À son appel, nous voyons réunis les élus de la République, particulièrement Paris, Île-de-France, mais par-delà, n'est-ce pas ? Mais ça, on l'a déjà vu. C'était même pas toute la République qui était présente. C'était le monde entier qui était présent, n'est-ce pas, pour la fameuse manifestation à la suite de l'extermination de, il faut dire les choses par leur nom, de l'équipe de Charlie Hebdo, n'est-ce pas, et de l'hyper-cacher. Parce que voilà, parce que nos attentats depuis 20 ans, il n'y a pas un seul où il n'y a pas à chaque fois des victimes juives.
Une composante antisémite.
Or, je vous rappelle que notre conscience européenne et française, elle est totalement formée sur l'idée qu'il n'y aura plus jamais la Shoah, c'est-à-dire que la conscience de notre destin lié avec nos compatriotes juifs est tellement extrême qu'elle n'est pas négociable. L'islamisme remet cela en cause de manière très très violente.
Vous trouvez que les politiques françaises sont faibles face à ça ?
Moi, je pense qu'ils sont très faibles. Alors, on les voit là, maintenant que ça sera. Deuxième point, vous parliez de la loi. Mais vous savez, dans l'Empire romain, on savait qu'on avait atteint le niveau de décadence absolue. C'est comme ça qu'on peut le mesurer, ou plutôt, il y a une manière de le mesurer qui est assez simple. C'est que plus on allait dans le temps avec l'Empire, plus l'Empire s'écroulait, plus il y avait de jours de congé, de jours fériés, et plus on multipliait les lois. Quand un pays, une nation...
C'est documenté, enfin, on a mesuré tout ça.
Oui, à la fin de l'Empire romain, il y avait 200 jours fériés par an. Et il y avait un nombre de lois tellement incalculable que...
Donc là, si je vous suis, on est un peu dans les mêmes symptômes de décadence.
Oui, bien sûr, décadence. J'aime pas trop être décliniste, etc. Parce que les déclinistes sont des progressistes qui s'ignorent, n'est-ce pas ? Et puis on ne sait pas mesurer les évolutions.
En tout cas, oui.
Mais quand un État a besoin de multiplier les lois, a besoin de préciser les lois, parce qu'il se retrouve lui-même piégé par ces lois. Alors dans ce cas-là, se pose une véritable question, c'est quel est le statut de l'appareil judiciaire ? En France, l'appareil judiciaire, la justice, ce n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Dans la Constitution, il y a deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et il y a une autorité. Cette autorité, aujourd'hui, elle aussi, elle vit un peu sa vie, n'est-ce pas ? Et on n'arrête pas de se rengorger sur l'état de droit. Qui est contre l'état de droit ? Personne. Personne n'a envie de se faire qu'on sonne à sa porte la nuit pour venir l'arrêter. Mais le droit, ça n'est pas tout. Le droit est aussi ordonné à une histoire. Il est aussi ordonné à une politique. Il est ordonné à une décision. Donc, si on ne veut faire que du juridisme, ben à la fin, c'est très simple. On est tel le berger qui ouvre le loup, qui ouvre la bergerie au loup et qui laisse entrer le loup. Parce que nous sommes face à des ennemis de la démocratie, à des ennemis de nos valeurs, qui, eux, savent parfaitement manipuler la loi à leur avantage et qui profitent, en fait, de la démocratie contre la démocratie. Donc, là-dessus aussi, il y a un moment, il faut une décision politique. On l'a entendu, opportuniste, pas opportuniste, je laisse ça aux commentateurs politiques, le président de la République a demandé, c'est son rôle, n'est-ce pas, c'est lui le garant des institutions, a demandé une révision. Mais est-ce que cette révision suffira? Le problème de ce nouvel antisémitisme, c'est un problème politique, c'est un problème sociologique, c'est un problème même en quelque sorte métaphysique, puisqu'on aboutit quand même à des attentats suicides, à des morts violentes.
On y viendra dans un
voilà.
instant.
Voilà, donc, quelle est la bonne hauteur de la réaction face à l'insoutenable? Vous voyez, la première affaire, c'était celle de Sébastien Selam, c'était en 2003. Il avait été tué par son ami d'enfance, voisin de palier, musulman, qui avait déclaré après l'avoir tué que, ça y est, maintenant il était fier de lui-même parce qu'il méritait le ciel. Enfin, le paradis. Il a été déclaré schizophrène, et aujourd'hui il doit être encore psychiatrisé, ou à moitié psychiatrisé. Cette affaire, c'est 2003.
Ça fait 20 ans.
Vous voyez, c'est 2003. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Ça fait presque une génération.
Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Nous sommes tous sortis manifester, nous avons tous été Charlie, et c'est très bien, et je suis parfaitement d'accord. Mais la petite fille de l'école juive, que Mohamed Merah a attrapée par les cheveux pour lui mettre deux balles dans la tête, elle ne méritait pas aussi qu'on descende tous dans la rue? C'est là où il faut comprendre nos compatriotes.
Vendredi, vous l'évoquiez justement, c'était aussi un nouvel assassinat terroriste, une policière de 49 ans, qui s'appelle Stéphanie, dans la région de Rambouillet. C'est Thibault Malandrin qui nous rappelle les faits.
Les minutes qui ont précédé l'attentat de Rambouillet sont désormais connues. Jamel Gorchen a bien effectué des repérages. Il a fait plusieurs allées et venues devant le commissariat et ciblé sa victime de 49 ans lorsqu'elle est sortie changer le disque au rodateur de sa voiture. Surtout, les enquêteurs ont récupéré de précieuses informations sur le téléphone portable que l'assaillant avait sur lui.
Une rapide exploitation de celui-ci révélait que l'agresseur avait immédiatement, avant de passer à l'acte, consulter des vidéos de chants religieux glorifiant le martyr et le djihad. Un Coran était enfin saisi dans le scooter garé à proximité et un tapis de prière dans le sac.
Jamel Gorchen, chauffeur-livreur de 36 ans, avait effectué un aller-retour en Tunisie, à Msaken, où vit une partie de sa famille. À son retour, ses voisins et son père, qui vit lui aussi en France, l'avaient trouvé changé. Une évolution qui avait commencé dès le début de cette année.
Son père a souligné que son fils avait adopté une pratique rigoureuse de l'islam. D'un autre côté, il a également mentionné différents troubles de comportement qu'il avait pu remarquer chez son fils au début de l'année.
Ce matin à Rambouillet, les fidèles ont profité de la messe dominicale pour avoir une pensée pour Stéphanie M, assassinée vendredi dernier.
Ça fait très mal, ça fait très mal.
Avoir une attention spéciale effectivement pour cette policière, parce que c'est quand même terrible. Pourtant, Rambouillet, qui est quand même une ville très très tranquille, comme quoi ça peut arriver n'importe où.
Un hommage sera rendu à la fonctionnaire de police demain après-midi sur le parvis de l'hôtel de ville de Rambouillet.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on vit avec le terrorisme sous ses formes, j'allais dire différentes, mais pas tant que ça, parce que toujours au bout, il y a la mort. Quelles sont les solutions, par-delà le renseignement, le travail de police? Est-ce que la France, avec son histoire, sa culture, ses valeurs, a un levier qui permettrait de sortir de cette affaire-là ou pas? Ou est-ce qu'on est condamné à subir et à punir quand on le peut, mais malheureusement, bien souvent, trop tard?
Vous savez, il y a des théoriciens de Daesh. Tous les islamistes ne sont pas des gars dérangés, qu'on prépare à assassiner, qu'on endoctrine, et dont on découvre qu'ils étaient prolétarisés, qu'ils sont passés par la case prison, etc., etc. Il y a des penseurs. Ces penseurs, ils considèrent que l'Europe, c'est le ventre mou, parce qu'il y a une population musulmane en Europe, c'est le ventre mou de la révolution mondiale qu'ils projettent, ouais. Et la France tout particulièrement, parce que elle a la particularité d'avoir la plus grande population musulmane d'Europe, mais aussi la plus grande population juive d'Europe. Donc il faut briser l'unité nationale. Il faut briser le sentiment du bien commun, n'est-ce pas? Il faut essayer de faire en sorte de rendre les Français non musulmans et les Français musulmans étrangers les uns aux autres, d'autant plus que la France, elle a un projet qui contrarie complètement les islamistes, c'est ce fameux projet de l'islam de France. Bien sûr, c'est un projet difficile. Bien sûr, ça avance pas comme on voudrait, tout ce qu'on voudrait. Enfin, mais... tout est clair de ce point de vue-là. Mais en même temps, si vous voulez, si les musulmans de France réussissaient à vivre la laïcité, c'est un ticket gagnant-gagnant, la laïcité. Les religions, elles trouvent une liberté, une créativité spirituelle, intellectuelle, morale. Le catholicisme français, le judaïsme français, le protestantisme français ont rayonné dans le monde entier grâce à ça, en montrant une voie où, effectivement, la religion devient libre du politique. Alors, je crois que nous sommes une cible particulière en raison de cela. Et si on ne comprend pas les motifs de ce combat, qui est un combat, en fait, pour l'universalité que la France relève, que la France doit relever, qu'elle a peine à relever, ça ne marche pas. Mais il faut continuer. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi nous sommes une cible si fortement.
Vous vous souvenez, le Premier ministre Manuel Valls avait évoqué, après les attentats de 2015, l'apartheid social. Oui. Au fond, comme l'une des explications de la révolte islamiste. L'apartheid social, ça voulait dire, en gros, on n'a pas réussi à intégrer les étrangers musulmans en France, et certains d'entre eux se dénature et se diabolise en quelque sorte. Vous pensez que la clé de lecture sociale et économique, elle joue dans le terrorisme ou pas ?
Écoutez, moi je crois que
non. Vous qui êtes historien des religions.
Non, moi je crois que non. Je pense qu'il y a des passions négatives qui ne correspondent pas simplement à des explications mécaniques, économiques et sociales. Vous savez, c'est ce que disait le grand George Steiner, ce juif d'Europe qui... était le dernier à connaître toutes les langues, à avoir lu toutes les bibliothèques européennes. N'est-ce pas ? Il disait, le XXe siècle, c'est le siècle où on a appris qu'on pouvait écouter Mozart à midi et torturer à 14 heures. Donc, vous voyez, l'Allemagne, c'était pas rien d'un point de vue économique, social, intellectuel. Il n'empêche que ça a donné le nazisme.
Oui, alors on pourrait dire, il y a quand même eu 20 ans de secousse, parce que Première Guerre mondiale, Weimar, etc. Le pays était quelque peu bousculé. C'est très difficile d'affecter un coefficient d'explication à tout ça, mais la réalité était
oui,
là quand même.
Oui, mais je dirais que ce que vous dites est vrai du point de vue de l'ébranlement des institutions qui ne sont plus capables de résister. Oui. Mais la passion morbide pour le mal, ça ne l'explique pas. Ça ne l'explique pas, parce que dans ce cas-là, tous les pays pauvres seraient des pays totalitaires, avec une adhésion très forte au totalitarisme. Ça n'est pas vrai, n'est-ce pas ?
Donc il faut vraiment dissocier les deux
non,
champs.
Non, je pense qu'on a affaire à une idéologie, qui est véritablement une idéologie inhumaine, qui vise l'humanité, qui est en plus pour elle, encore une fois, d'être planétaire, encore une fois, qui s'inscrit dans un retour du religieux beaucoup plus large, n'est-ce pas ? Hein ? Puisque aujourd'hui, M. Poutine fait repeindre les monastères que les bolcheviks détruisaient, et M. Xi Jinping cite Confucius que les gardes rouges brûlaient. Donc, je veux dire, on est de retour au grand arsenal symbolique. Donc, nous sommes face à cela. Le problème, c'est le problème de la complicité passive. Même quand elle n'est pas voulue comme une complicité, n'est-ce pas ? Dans toutes les affaires qu'on a récemment jugées, on a vu le procès Charlie, on verra ça avec le procès du Bataclan... Les terroristes ont profité d'une sorte, non pas forcément d'aide structurelle, logistique, etc., mais finalement, ils auraient pu être peut-être arrêtés, dénoncés plus tôt, mais finalement, il n'y a pas eu de grande réaction, n'est-ce pas ? Et donc c'est là où moi je dis que ce qu'il y a de plus urgent, je sais que ce n'est pas à la mode, mais ce qu'il y a de plus urgent, c'est une relecture théologique.
C'est-à-dire
une relecture théologique pour chez nos compatriotes musulmans, de manière à ce qu'il soit vraiment très clairement établi la différence entre l'islam et l'islamisme, à laquelle j'adhère. Je sais très bien que nos compatriotes ne sont pas des terroristes, je sais très bien qu'ils en ont ras-le-bol de devoir se justifier et de ne pas l'être. Mmh. Mais en même temps, il y a un travail qui doit être très clair, parce que si demain, un catholique va mitrailler le gouvernement... L'archevêque de Paris n'aura aucun mal à expliquer qu'il n'était pas catholique. Et il n'y aura pas de question là-dessus. C'est ça le problème de fond, je crois. Et puis le réseau des complicités, c'est par exemple aussi que, vous voyez, le tueur de cette policière, mère de famille, assassin prémédité, puisque semble-t-il, il a tourné autour, il a ritualisé son acte, bon, etc. Il était de cette ville, Mkazen, de Tunisie, d'où était aussi originaire le conducteur du fameux camion de Nice, l'attentat au camion. Donc il y a aussi un problème aussi de gestion internationale, d'alliance, pour combattre cette hydre qui est une internationale de la mort.
Vous le dites, finalement, notre atout, c'est à la fois la culture, l'histoire française et la laïcité. C'est un mot que les gens de notre génération comprennent. On a l'impression que chez les jeunes, c'est beaucoup plus trouble et ils ne comprennent pas toujours le totem que nous agitons comme une gousse d'ail devant les vampires, sans d'ailleurs faire fuir les vampires.
Non, sans d'ailleurs les faire fuir, mais parce que, vous voyez, on parlait de ces 20-30 ans de confusion, 20-30 ans pendant lesquels on a eu du mal à nommer le mal, 20-30 ans pendant lesquels on a eu du mal à admettre qu'il y avait un nouvel antisémitisme, 20-30 ans pendant lesquels la laïcité est partie, je dirais, si vous passez cette expression à votre antenne, en sucette, dans le sens où plus personne ne sait ce qu'elle veut dire. On sait que pour l'extrême droite, elle veut dire la détestation à des immigrés particulièrement musulmans. On sait que pour l'extrême gauche, elle veut dire l'utilisation d'une sorte de prolétariat de substitution pour venir, regarnir les rangs de la révolution, quitte à mettre des filles voilées comme candidates dans des syndicats étudiants qui se distinguaient jadis plutôt par leur côté ultra-progressiste, n'est-ce pas ? Donc, on ne sait plus ce que c'est. La laïcité, c'est très simple, c'est un mot qui apparaît en 1870-1880, mais qui recoupe l'expérience française sur 1000 ans. Lorsque la France naît avec les Capétiens, elle ne veut pas que Rome, qui est une grande puissance à cette époque-là, intervienne dans les affaires du royaume, en instrumentalisant l'Église. Ça s'appelle les légistes, c'est Philippe le Bel. Ça finit d'ailleurs avec un pape souffleté par le légat de Philippe le Bel, n'est-ce pas ? Boniface VIII par Guillaume de Nogaret. Première expérience. On dit non la religion en France parce que la France est un pays à l'inverse des autres. C'est l'État qui a fait la nation. Partout ailleurs, vous avez des peuples qui cherchent un État, mais là, c'est différent. Deuxième point, les guerres de religion. Quand il y a des catholiques français et des protestants français qui s'entretuent, il faut que l'État soit au-dessus. Donc il faut qu'il soit neutre, confessionnellement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc vous avez eu une grande expérience millénaire pour en arriver à 1905, qui est un divorce à l'amiable.
C'est un point d'aboutissement, 1905, au fond.
Oui,
c'est pas un point de départ.
Et d'apaisement, c'est pas un point de départ. C'est l'Église cesse de vouloir asservir l'État, l'État cesse de vouloir asservir l'Église. Ça s'est passé dans ce sens-là aussi. On dit à toi le spirituel, à toi le temporel, et comme dans n'importe quel divorce, d'ailleurs, on dit, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a acquis pendant la durée du mariage ? C'est le fameux problème des églises qui sont à la charge de l'État, n'est-ce pas ? Celles qui sont antérieures à 1905. Voilà. Donc cette laïcité-là, elle est unique au monde. Elle n'existe nulle part ailleurs.
C'est moderne, c'est adapté au problème d'aujourd'hui ?
Mais c'est la seule chance. Alors, c'est pas exportable comme ça, parce que tout le monde n'a pas notre histoire. La laïcité, c'est le résultat entre l'État français et l'Église catholique, qui ont quand même contribué à l'histoire mondiale énormément. C'est pas vrai au Canada, où on passe des accommodements raisonnables. C'est pas vrai en Turquie, qui elle aussi se dit laïque, mais où, en fait, ça veut dire que l'islam est une religion d'État. C'est vrai nulle part ailleurs. En Europe, on est complètement isolé. Il y a encore 8 pays qui ont une religion d'État ou une religion préférentielle. Il y en a 20 ou une vingtaine, dont les 8 que je viens de citer, donc 12 autres, qui ont une religion en quelque sorte privilégiée ou des cultes reconnus, qui ont des avantages sur les autres. Les seuls à dire qu'il doit y avoir une séparation, pourquoi ? Parce que la religion, elle est exclusive par définition. Elle porte une vérité absolue. Et deuxièmement, elle est assez dominatrice sur ses fidèles, puisqu'elle attend d'eux qu'ils soient des fidèles. Donc si on veut faire nation, dans ce cas-là, il faut neutraliser l'espace religieux. Et l'État doit être neutre face à l'espace. C'est une expérience formidable pour le reste du monde, particulièrement aujourd'hui.
Ça veut dire que quand un politique évoque les racines chrétiennes de la France ou de l'Europe, il commet une erreur grave ?
Non, c'est pas faux. La France n'est pas née sous X, ni l'Europe d'ailleurs. Je veux dire non, c'est pas faux. Mais il faut dire les racines juives, les racines chrétiennes, les racines gréco-romaines, puis les racines des Lumières. L'Europe, elle s'est faite comme ça. Et en plus, entre tout ça, il y a un rapport assez symphonique, n'est-ce pas ? Mais bon, il n'y a pas à dire le contraire. Maintenant, il est quand même difficile de se promener en Europe et d'y faire du tourisme sans visiter une église, tout de même. Hein ?
Samedi, c'était hier, le nouveau président américain Joe Biden a reconnu l'existence du génocide arménien par les Turcs en 1915. On est décidément ramené au début du XXe siècle avec tous les sujets d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un geste important ?
Enfin, tous les présidents américains avaient jusque-là refusé. Ceux qui avaient dit qu'ils le feraient ne l'ont pas fait. Barack Obama, pour toujours cette raison essentielle, qui est que la Turquie, c'est l'OTAN, l'Alliance Atlantique Nord. C'est l'allié de l'Occident, ouais. Et c'est la principale base, le principal lieu où il y a une base nucléaire américaine en dehors du territoire des États-Unis, n'est-ce pas ? Donc, cette Turquie, elle avait tous les droits. Elle avait tous les droits jusqu'au fait de nier ce génocide qui est établi historiquement. La Turquie ne peut pas le reconnaître, parce que sinon, elle démantèle son mythe national. Elle s'effondre.
Pour quelle raison ?
Elle n'est pas responsable, c'est sous l'Empire ottoman. Donc, la Turquie a lieu en 1923, le génocide a lieu en 1915. L'Empire ottoman, c'est une mosaïque de peuples. Dans ces peuples qui prennent des indépendances, les Grecs, les Serbes, puisque l'Empire, à ce moment-là, il couvre aussi la Méditerranée occidentale.
Et il va jusqu'à la Syrie, l'Irak, etc.
Les Arabes syriens, ouais. Et les Arabes irakiens, ils veulent aussi leur indépendance, ils vont la prendre. Il y a ces Turcs qui sont une ultra-minorité qui ont tenu l'Empire, un Empire un peu faussement tolérant, parce que quand vous êtes une minorité, vous êtes un peu tolérant pour aménager votre pouvoir. Les jeunes Turcs, ce sont des admirateurs de Robespierre, de la terreur, ce sont des positivistes, ce sont des darwiniens.
Ça, c'est les années 20, donc, hein ?
1900.
Ah non, c'est
ce sont des officiers militaires, ouais, qui rêvent, en fait, d'avoir aussi leur nation, et donc il va falloir nettoyer. Ils rêvent d'ailleurs à ce moment-là d'avoir une grande nation turque qui irait jusqu'à l'Azerbaïdjan, vous voyez l'actualité, qui irait jusqu'aux Ouïghours de Chine, en passant par l'Ouzbékistan, ça, toutes les populations turcophones d'Asie.
Jusqu'à la Chine de l'Ouest.
Voilà. C'est leur rêve. Au milieu, il y a les Arméniens qui font écran. Donc, on va les exterminer. C'est le génocide. C'est ça, un génocide. C'est pas un massacre. Un génocide, c'est quand on extermine une population pour qu'elle n'existe plus. Et ils vont le faire. Et puis, l'Empire ottoman se met du mauvais côté pendant la Première Guerre mondiale, il est du côté des Allemands, il perd tout, on veut le réduire, les jeunes Turcs, il y en a un qui est assassiné à Berlin, l'autre qui est jugé et condamné, et de là, d'un coup, Mustafa Kemal, qui était idéologiquement Atatürk, un jeune Turc, sort d'Anatolie, il instaure la Turquie moderne, et après les 1,6 million Arméniens exterminés, il y a 1,5 million Grecs qui sont là depuis 30 siècles, qui sont expulsés. Et la Turquie moderne va fonctionner comme une machine à épurer les dissidences, les différences, à former un citoyen complètement imaginaire. La preuve, c'est que les Kurdes, aujourd'hui, ne sont toujours pas turcs au sens plénier du terme.
Si le sujet est aussi explosif, comment la Turquie va-t-elle réagir à cette reconnaissance de la part de Joe Biden ?
Déni absolu, la presse turque est unanime, et d'ailleurs c'est fort intéressant, c'est tellement constitutif, n'est-ce pas, de se dire qu'en fait on est l'héritier d'un trou noir, pas d'une glorieuse histoire, qu'on occupe un territoire qui a été nettoyé par l'extermination, et que d'ailleurs ce problème encore une fois continue aujourd'hui. Les Kurdes et les Alevis, c'est 25% de la population turque, ils ne sont pas reconnus, parce qu'il y a un Turc imaginaire. Un Turc sunnite, un citoyen, un moule dans lequel ils font entrer. Alors comment ils font ? Mais ils réagissent unanimement, sauf quelques intellectuels qui sont en prison ou en exil. La cause est tellement nationale, ça définit tellement le mythe national, que c'est non. Et vous savez qu'en Turquie, le génocide, parler du génocide des Arméniens, c'est puni par la loi, c'est quasiment constitutif, c'est constitutionnel. C'est un peu comme le blasphème dans les lois religieuses. N'est-ce pas ? Vous êtes très sévèrement puni. Donc là-dessus, c'est un échec monstrueux pour les Turcs, malgré tout. Pourquoi ? Parce que l'Amérique fait un mouvement, alors ça rentre dans la politique de Biden, l'Amérique est à nouveau l'empire du bien, l'Amérique est à nouveau le gendarme moral du monde, et puis l'Amérique surtout, elle fait payer à la Turquie le fait d'être allée acheter des missiles non compatibles avec ceux de l'OTAN à la Russie, à l'ennemi, à Vladimir Poutine. Il y a ça aussi.
Donc d'un certain côté, Biden montre les dents aussi avec ça.
Bien sûr, mais il les montre partout, pas que là. Il veut montrer que l'Amérique est de retour.
Est-ce qu'il y a une chance ou un risque pour que la Turquie se désolidarise de l'Occident à cette occasion-là ou pas ?
Non, parce que Aujourd'hui, le pouvoir d'Erdogan est un pouvoir affaibli. C'est parce que, pour nous, Erdogan, c'est l'homme qui fait des opérations militaires en Syrie, en Irak, en Libye, dans la mer Égée et dans le Caucase, le Haut-Karabakh, où un siècle après le génocide,
il reste quelques Arméniens, mais
on continue à pourchasser les Arméniens avec des discours au relent génocidaire. Mais pour les Turcs, c'est le père de la prospérité. C'est lui qui a fait de la Turquie le fameux tigre anatolien. Ça ne marche plus. La livre turque, la monnaie nationale, décroche.
C'est un effondrement.
Les industries ont du mal à trouver leurs débouchés. C'est pas un pays autosuffisant, c'est un grand pays de commerce, puis c'est un pays carrefour. Vous savez ça mieux que moi, n'est-ce pas ? Et donc ce pays va très très mal. La répression après le putsch avorté de 2015, ça donne quoi ? Ça donne 50 000 à 100 000 personnes qui appartiennent aux élites, des journalistes, des professeurs, des intellectuels, des syndicalistes, qui sont embastillés ou qui ont fui en exil, sans possibilité de retour. Voilà. Et pourtant, dans ce pays-là, il faut le dire, c'est un magnifique pays, les Turcs sont un peuple extraordinaire, il y a ces jeunes des universités qui risquent de se faire accuser de terrorisme, d'aller en tôle pour toujours, et qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, ils protestent contre la mainmise d'Erdogan sur l'université.
Comment expliquez-vous la transformation d'Erdogan? Je me souviens l'avoir rencontré il y a une vingtaine d'années avec son épouse. Et à l'époque, Miss Monde, qui venait de Turquie, c'était au forum de Davos, comme ces bien rencontres un peu improbables qui associent des milieux différents. À l'époque, il était, je ne dis pas révéré, mais en tout cas admiré par la communauté du business occidental qui y voyait le libéral qui allait moderniser le pays. Et puis, voilà que tout se retourne il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je crois qu'il s'est passé le fait que nous sommes abusés volontairement. Je sais qu'il y a une thèse qui dit que c'est parce que nous avons refusé l'entrée de la Turquie dans l'Europe.
J'allais y venir, oui.
Que bon, mais non. La vérité, c'est que Erdogan, vous savez, on nous a seriné, tout le monde a repris ce refrain à cette époque-là, que c'était un islamo-démocrate, comme nous avons connu des démocrates chrétiens. Absolument. En Italie, en Allemagne.
C'était le discours dominant il y a 20 ans.
Erdogan, c'est l'homme qui voit que l'islamisme ne va pas arriver à passer en Turquie. Et donc, il va rassembler autour de lui toutes les dissidences. Il va faire des promesses aux libéraux, aux centristes, qui ont été écrasés par l'État turc, selon Atatürk, État jacobin, qui ne laisse exister personne. Donc, il va véritablement rallier à lui tous les déçus d'Atatürk, en leur disant « Avec moi, vous aurez plus de liberté ». Et l'Europe va dire banco. Au fond, on en a besoin, parce que l'Europe était un peu fatiguée de soutenir des généraux qui faisaient des putschs tous les 3, 5, 10 ans, et qui, à chaque fois, en fait, instauraient la loi martiale pour sauver la République. Et d'autre côté, les États-Unis étaient d'accord aussi. C'est la ligne vers islam, adoptée après la guerre d'Afghanistan, ou au même moment, lorsque les États-Unis se sont rendus compte que l'islam résistait, finalement, au communisme, et qu'il fallait trouver des islamistes compatibles avec le pouvoir américain et d'allure démocratique. Il s'est engouffré, il s'est présenté au guichet, il a gagné, mais en fait, assez rapidement, on a vu apparaître l'autocrate.
L'Europe n'est-elle pas trop faible face à la Turquie, face à Erdogan, justement en lui demandant, au fond, de gérer ses propres frontières, à elle, en contrepartie de quelques milliards ?
Mais l'Europe, non seulement est faible, mais elle est achetée, elle se disqualifie complètement moralement pour ne pas faire face à l'actuelle crise des migrants qui, vraisemblablement, cette crise en préfigure beaucoup d'autres, parce que rien n'arrêtera cette poussée du sud vers le nord, qui est aussi d'une poussée du sud extrême vers le sud du centre, n'est-ce pas ? Nous sommes dans cette époque de grand bouleversement. Donc, pour que Erdogan garde 4 millions de réfugiés venant principalement des guerres du Proche-Orient et un peu plus loin d'Afghanistan et autres, eh bien, il nous rançonne, il nous raquette. Il nous dit, c'est tant de libéralité sur les visas, c'est tant d'argent. 2 fois 3 milliards d'euros.
6 milliards, hein, au total.
Oui, 2 fois 3 milliards, 3 milliards. 2 fois 3, on a payé 3, il réclame le reste. Et puis l'impunité lorsqu'il place des troupes en Syrie et en Irak, l'impunité lorsqu'il débarque dans les eaux territoriales grecques pour pomper le gaz, qui ne lui revient pas, l'impunité lorsqu'il s'allie avec l'Azerbaïdjan pour faire une guerre ultramoderne contre les Arméniens du Haut-Karabakh qui sont parfaitement démunis, n'est-ce pas ? Et nous disons oui. Et nous disons oui pourquoi ? La France est opposée à toutes les visées militaires d'Erdogan, puisque nous sommes une grande puissance de Méditerranée.
D'ailleurs, Emmanuel Macron est la cible régulière d'attaques verbales d'Erdogan, hein, qui y voit je ne sais quelle puissance maligne.
Parce que le sympathique islamo-démocrate est en fait le chef de l'internationale précisément des frères musulmans. Et donc lorsque la France s'oppose à lui, eh bien, il lui suffit de mobiliser tous les frères musulmans qui vont du Maghreb à l'Asie, qui sont soit à la tête de gouvernement, mais qui sont parfois des groupuscules. Mais à la fin, on a l'impression d'une mobilisation du monde musulman entier. C'est faux.
C'est pas vrai.
C'est faux, c'est une manip. Donc, notre Erdogan, si vous voulez, ce qu'il sait, c'est que l'Europe est faible. Il avait traité Mme Merkel de nazie. Pas étonnant qu'il traite M. Macron de malade mental bon pour l'asile, n'est-ce pas ? Et puis, il sait aussi que l'Europe ne tient pas de manière solidaire. Il y a 5 millions de personnes de provenance turque, au sens très large, en Allemagne. Les Turcs sont la première population musulmane en Europe, parce qu'il y en a aussi 700 000 en France, beaucoup au Belgique, au Luxembourg, dans tout l'ancien espace de l'Empire de Charlemagne. Les Turcs forment la première population musulmane, administrée depuis Ankara par le ministère des Affaires religieuses, qui est à la main d'Erdogan, la Diyanet, qui est un département, mais qui a 3 milliards d'euros de budget par an et a 120 000 fonctionnaires.
Pour la diaspora.
Pour la Turquie et la diaspora.
Alors on voit en Allemagne quand même des histoires extraordinaires. C'est le couple qui a été à l'origine de l'invention du vaccin. D'origine turque, parfaitement intégré, brillantissime, il n'y a pas besoin de le dire, et qui finalement, j'allais dire, sauve le monde. Pas tout à fait. Mais enfin, qui crée BioNTech, laquelle s'associe avec Pfizer et crée l'un des vaccins les plus diffusés aujourd'hui.
Mais bien entendu, contre, je dirais... l'extrême droite et tous ceux qui sont hérissés, etc. Nous avons aussi des histoires d'intégration en France qui sont tout à fait extraordinaires. Donc c'est possible, particulièrement dans le milieu des affaires, la finance, les nouvelles technologies, mais aussi, avant même tout ça, dans la culture, n'est-ce pas ? Bon. Donc rien n'est impossible. En revanche, la Turquie, elle, ne veut pas entendre parler de cela. Donc non seulement elle délègue son bras armé, qui est la Diyanet, ce fameux ministère des cultes. Mais depuis Erdogan, elle a aussi le Miligorus, qui s'est beaucoup illustré à Strasbourg avec l'affaire d'Albertville, l'école, la grande mosquée cathédrale, etc. Le Miligorus, c'est une association assez fondamentaliste qui a été fondée par le mentor d'Erdogan, Erbakan, qui a été le premier ministre islamiste de Turquie.
Cette semaine, c'était alors un événement plus réjouissant, le départ de Thomas Pesquet, l'astronaute français et de ses camarades, pour la station ISS. Mathieu Carman a suivi l'homme qui va décrocher la Lune.
Endeavour arriving. Le premier à rentrer dans la station, c'est Gwynn-Gwynn, le manchot en pluche qui a servi d'indicateur d'apesanteur. Suivi par le japonais Aki Oshide, et enfin un Thomas Pesquet tout sourire, heureux de retrouver cette station spatiale où il a déjà passé 196 jours il y a 4 ans.
C'est incroyable d'être là. La station a un peu changé depuis la dernière fois. Je n'ai jamais vu autant de personnes à bord ni autant de vaisseaux amarrés.
Il aura fallu quasiment 24 heures de voyage pour opérer ce rendez-vous orbital entre la capsule et la station. À 11h30, la capsule arrive aux abords de l'ISS et s'amarre sans difficulté. Sept astronautes les attendaient, dont le russe Oleg Novitski, avec qui le français avait volé en 2016. Au total, ils sont 11 dans la station. 4 descendront dans quelques jours.
On aimerait les garder plus longtemps. En fait, pas trop quand même, parce que 11 personnes à bord, ça fait beaucoup.
Thomas Pesquet est à bord. Sa mission Alpha peut enfin commencer.
Extraordinaire réussite technologique. Qu'est-ce qu'elle inspire à l'historien que vous êtes ?
Moi, d'abord, je suis heureux pour la France. Nous comptons parmi l'espace étant la nouvelle frontière, nous y sommes.
Bon, alors c'est pas nous qui construisons la navette.
Certes. On
a un homme de grande qualité, manifestement.
On a des pilotes valeureux, on n'est pas complètement absent, il faut lutter pour ça. Maintenant, je vais vous dire. Vous voyez, ce qu'on a vu sous nos yeux, cet arrêt de la planète causé par un microbe, un virus, mais un microbe au sens tout à fait...
fondamental.
N'est-ce pas ? Nous avons redécouvert notre fragilité totale. On pouvait mourir d'avoir respiré un peu trop près de quelqu'un.
Oui, encore, vous mettez ça au passé, mais...
Oui, oui, non, bien sûr. Bah, la découverte, à ce moment-là, elle a été terrible. Aujourd'hui, malheureusement, l'être humain, ayant une résistance phénoménale, s'habitue un peu à tout.
C'est vrai.
Et malheureusement, mais avec un coup psychologique, spirituel, culturel, énorme. Donc on a découvert notre fragilité. On a découvert que l'homme possesseur de la nature... des Lumières, de Descartes, l'homme prométhéen, l'homme qui va annuler la mort, l'homme qui va annuler l'espace, l'homme qui va aller coloniser Mars à la recherche d'un probable extraterrestre, ben, que cet homme-là, il pouvait être emporté comme ça et disparaître, n'est-ce pas ? Et moi, ce que je pense, tout simplement, c'est que, oui, je dirais, ça me fait un peu sourire, un grand mystique orthodoxe disait, la meilleure définition de l'homme, c'est contemplateur d'étoiles. Parce que la station debout, qui nous tient les animaux, et puis on se lève vers le ciel, n'est-ce pas ? Bon, vouloir coloniser le ciel comme on a colonisé la Terre, vouloir peut-être répéter les mêmes erreurs, et transporter nos virus, etc., etc., est-ce que l'univers mérite ça ? Ça sera un peu ma question amusée.
Oui, et puis mais c'est un peu Prométhée, parce que...
C'est Prométhée, camarade. Bien sûr, oui.
En ce sens-là, il y a une certaine noblesse aussi dans le désir de connaître.
Oui, si ce n'est que... Alors, allons-y, puisque... C'est un retranchement. Mmh. Vous le savez mieux que moi. Le patron de Virgin, déjà, travaille à des voyages sur la Lune en navette payante pour les riches, n'est-ce pas ? Pour
les riches, celui de SpaceX aussi, aux États-Unis.
Donc, c'est-à-dire qu'on a beau aller sur la Lune, on y transporte manifestement nos bisbilles,
nos travers.
Nos travers. Ça nous... Allez, donc, n'allons pas trop sur la Lune, parce qu'on y apprendra malheureusement qu'on ne change guère. C'est ce que j'avais envie de dire, voyez. Et donc, avant même que ça soit le cas, c'est déjà devenu du business. Et je ne suis pas contre le business, je fais commerce de livres au sens complet du terme. Commerce de livres. Au sens du commerce des esprits, mais aussi commerce des livres physiques, bien sûr, et j'en suis fort heureux. Donc je ne suis pas contre. Mais voilà, ne nous extasions pas sur, finalement, des conquêtes si fragiles.
Un dernier mot, justement, sur le commerce de livres. Comment se porte-t-il ? Ça a été une année difficile pour le secteur, pour les librairies. Vous êtes, je le rappelle, patron d'une maison d'édition, les éditions du Cerf.
L'industrie du livre en France, c'est la première industrie culturelle de France. C'est 50% des industries culturelles. C'est trois fois le chiffre d'affaires du cinéma français qui est complètement administré par l'État.
Ça représente au total combien de...
6 milliards d'euros.
6 milliards d'euros
par an.
Pour la vente de livres.
Dont 25% à l'étranger sous la forme de livres physiques ou de ventes de droits. Ça alimente le cinéma, la télévision, etc.
Et ça, c'est sans équivalent en Europe ?
Non, bien sûr que non. Et puis nous sommes...
Ça veut dire qu'on est le pays où on vend le plus de livres.
Oui, l'Allemagne en vend aussi beaucoup, mais nous sommes le pays où la littérature mondiale est chez elle. Il faut savoir que 13 livres sur 100 qui sont traduits dans le monde le sont en France et en français chaque année. Ouais. 13%, mais les Américains, les Allemands, tout le monde est loin derrière.
En termes de population, on est à 4-5 fois moins.
Hein. Voilà. Donc... Cette industrie, elle est formidable. Le problème, il n'est pas dans cette industrie.
Pardon, c'est en termes de PIB, ou c'est, mais en termes de population, c'est encore beaucoup plus faible, ouais. Bien sûr.
Et je dirais, aujourd'hui, le problème n'est pas là. Le problème, il est... Bien sûr, il y a de nouveaux modes de consommation culturelle. Et bien sûr, il faut vivre avec elles. Mais la lecture reste, en fait, un constituant de la liberté, de l'aide sociale. C'est là où on forme son fort intérieur en pleine liberté, que ce soit l'imaginaire, le sens imaginaire, le sens critique. Aujourd'hui, c'est la disparition des lecteurs qui est inquiétante. Et ça, c'est un dossier pour la République, c'est un dossier pour l'éducation nationale.
C'est vrai que les jeunes ne lisent plus ?
Ils lisent autrement. Ils n'ont plus cette lecture au long cours, méditative, solitaire, où vous forgez votre jugement.
Et on ne peut pas se forger un jugement en lisant autrement ? Que comme nous le faisons, nous, la génération qui est la nôtre ?
Si, mais voyez, quand vous avez 4 fenêtres ouvertes sur votre ordinateur et que vous avez un temps disponible très court, vous savez d'ailleurs, il y a même des journaux qui affichent le temps de lecture pour vous rassurer.
C'est vrai.
De 2 minutes, plus, voilà. Non, il faut plonger dans un livre, il faut se détacher du monde, il faut prendre le recul. La lecture, c'est la liberté.
Mais ça, c'est un changement de civilisation ?
Peut-être, peut-être pas. Ce qu'on voit, c'est que le livre a résisté de manière merveilleuse. Le livre physique, le livre papier qu'on disait condamné. Pourquoi ? Parce qu'en deux mots, c'est le recto verso, c'est l'aller et le retour, c'est le chapitrage. Avant, vous aviez le codex. Le codex, on ne retrouve rien dedans. dans un livre, vous savez où vous en êtes, parce
le
que c'est vous.
C'était un peu comme une page d'écran, quoi, au fond. Hein.
Bravo.
Et ça aide pour comprendre, se repérer, que d'avoir un objet physique, justement, où la page délimite un ensemble de signes.
Oui, et où il y a de l'aller, du retour, des chapitrages, etc. Mmh. Où, en fait, on vous donne les indications de la manière dont le discours se construit, ce qui vous permet de le vérifier.
Ça va disparaître, ça.
Non, ça, je crois que ça sera une bataille. Mais il faut faire attention, vous savez, jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait encore des écrivains publics pour les gens qui étaient analphabètes. Peut-être que nous allons rentrer dans une époque où il y aura des lecteurs publics pour les gens qui ne savent plus lire. Ça sera peut-être un métier d'avenir. Donc, tous ceux qui, aujourd'hui, font des études de lettres et des experts, non, non, il y a un métier pour vous,
c'est
peut-être.
C'est une espèce protégée. Et alors, que les éditeurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir?
Les éditeurs, ils resteront toujours là parce qu'il n'y a pas de... Le métier d'éditeur, c'est un métier de l'ombre, c'est un métier de la passation, c'est un métier... L'éditeur est un miroir dont l'auteur a besoin, à tous les sens du terme. L'éditeur, c'est un accompagnateur. Dans la solitude qui est celle de l'auteur, lorsque l'auteur, quel qu'il soit d'ailleurs, même si c'est pas un prix Nobel de littérature, entre, il lui faut cette ombre qui l'accompagne, et puis il faut penser le métier.
Dernière question, Jean-François Colosimo, quel est le meilleur livre que vous avez lu récemment ?
Alors c'est en fait une relecture, n'est-ce pas,
hein? Oui, il y a un âge où on relit plus qu'on lit.
Voilà.
Non,
et,
c'est pas vrai.
Ouais, évidemment, c'est, je dirais, les deux livres en fait de notre trésor national vivant, Régis Debray, Dieu en itinéraire et Le Feu Sacré, deux très beaux albums d'ailleurs illustrés.
Ça croise vos centres voilà. d'expertise et de préoccupation.
Mais je crois que c'est surtout un bon manuel de géographie. Pour se diriger dans le monde d'aujourd'hui et pour le comprendre. Parce que Debray décrypte, en fait, toutes ces tensions dans lesquelles nous vivons, qui ont fait notre conversation d'aujourd'hui, toutes ces tensions où le politique et le religieux ne cessent de se mêler, on a du mal à les démêler. Pourquoi autant d'aveuglement? Pourquoi autant de confusion? Qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, ce qui nous arrive, c'est qu'on pensait être sorti de la religion, et peut-être qu'on n'en est jamais sorti, et peut-être qu'on est en train de fabriquer des religions encore plus absurdes que les religions historiques. Mais avec Régis Debray comme guide, ce n'est pas une visite de musée, c'est une véritable traversée du présent.
Ça veut dire que, au fond, cette période sans religion, ça a été... Sans religion, Dieu est mort, hein, disait Nietzsche, voilà, ouais. C'est 1880, donc ça a duré quoi, un siècle? C'est une parenthèse qui se referme.
Vous allez regretter de m'avoir posé cette question, parce que le temps doit courir. On n'est jamais sorti de la religion. Il y a Voltaire, et puis on a Robespierre qui crée le culte de l'être suprême.
Oui.
On a Marx qui dit l'opium du peuple et on a Lénine qui se fait embaumé et vénéré sur la place rouge. Comme religion, je préférais des religions un peu moins kitsch, n'est-ce pas? Il y a Hitler et les grandes messes nazies avec la restauration du sacrifice humain, n'est-ce pas? Chez les Khmers rouges dans les camps. Dans les camps, très, 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 très tragiquement, chez les Khmers Rouges, les types étaient dans les camps, et dans les mégaphones, retentissait quoi? Même après ta mort, l'organisation tu surveilles. Ah bon, il y a un après la mort, il y a un au-delà pour les marxistes. J'étais pas au courant.
Merci à vous, Jean-François Colosimo. Adrien, bonsoir.
Bonsoir, François. Et
vous
bonsoir
avez
à tous.
Quelques secondes pour nous raconter le menu des deux heures qui suivent que vous allez présider.
En toute franchise, ça commencera dans quelques minutes avec Xavier Bertrand, tout d'abord, président de la région Hauts-de-France, candidat régional, candidat à la présidentielle également. Il a fait du régalien à l'une de ses marques de fabrique pour les scrutins à venir. Ça tombe bien, beaucoup de sujets dans cette actualité très lourde. Bien évidemment, on reviendra avec lui sur le rassemblement pour Sarah Halimi cet après-midi au Trocadéro. Il y était, il demande lui aussi une modification de la législation. On évoquera également les dernières violences, autant celle de Rambouillet vendredi qui a coûté la mort, la vie à une policière qui a été tuée, une agent administrative. Et puis on reviendra plus largement sur les dernières violences dont ont été la cible les forces de l'ordre. 18h-19h et puis à 19h le duel avec cette semaine Luc Ferry face à Ségolène Royal.
En toute franchise, c'est donc dans un instant. Merci encore Jean-François Colosimo. Merci. C'était passionnant de se promener avec vous dans l'actualité, dans le passé, dans la culture française. C'était très nourrissant. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera les best-of de l'angle et des chiffres. Et nous serons en direct dans 15 jours exactement. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous.
C'était votre...